La Voix des songes. Samuel Cohen Salmon.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle saison de La Voix des songes, émission consacrée aux rêves et à leur interprétation. Pour cette cinquième saison sur les ondes de Radio FM+, nous nous retrouverons, comme d'habitude, toutes les deux semaines, le jeudi à 10h sur 91 FM à Montpellier, et en rediffusion le vendredi suivant à 16h, et bien entendu en podcast sur le site de la radio, radiofmplus.org. Pour celles et ceux qui découvriraient La Voix des songes, mais aussi à l'attention des auditrices et auditeurs habitués, cette première émission de la saison est consacrée aux bases de l'analyse des rêves, telle que je la conçois en tant que psychothérapeute d'orientation analytique. Dans un premier temps, intéressons-nous aux rêves en tant que phénomène physiologique en lien avec le sommeil. Donc, d'un point de vue neurologique, durant le sommeil, je prends ici l'exemple de ce qui se passe durant la nuit, bien que le même phénomène soit à l'œuvre durant une sieste, le cerveau présente une activité électrique cyclique entre 3 et 5 cycles d'une heure et demie en moyenne. Chaque cycle est lui-même divisé en 3 phases, marquées par une activité électrique bien particulière. Le sommeil léger, le sommeil lent profond et enfin le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal est la phase du sommeil durant laquelle sont produits les rêves. Le sommeil paradoxal correspond à une période durant laquelle l'activité cérébrale est proche de celle de l'éveil, c'est-à-dire une activité électrique du cerveau plus intense. Le sommeil paradoxal est notamment caractérisé par des mouvements oculaires rapides, facilement observables chez n'importe quel dormeur. A l'inverse, le tonus musculaire est totalement aboli durant cette phase, ce qui entraîne une paralysie des muscles moteurs à l'origine de nos mouvements. On peut ainsi affirmer que même si vous êtes en plein rêve de poursuite, en train de courir ou nager de toutes vos forces, en réalité, vous ne bougez pas dans votre lit, quand bien même la sensation de mouvement est intense dans votre rêve. Et la fatigue au réveil reflète davantage une fatigue psychique que physique. Alors, après quoi court-on symboliquement dans nos rêves? Ou encore, à quoi cherche-t-on à échapper? Que fuit-on en courant ou nageant ainsi dans nos rêves? Mystère. Des études cliniques récentes, dont nous nous sommes fait l'écho lors d'une émission spéciale la saison passée, suggèrent que nous rêverions en permanence durant la nuit, mais que nous aurions uniquement la possibilité de se remémorer des rêves correspondant à la phase de sommeil paradoxal. Et c'est déjà pas facile. Par exemple, il est fréquent de recueillir le témoignage de personnes parlant la nuit et qui tiendraient des propos plus ou moins cohérents, pouvant laisser entendre que ces personnes sont effectivement en train de rêver. Sauf qu'au réveil, les personnes concernées ne s'en souviennent jamais. Et c'est normal d'un point de vue neurologique. Les phénomènes de somniloquie, c'est-à-dire le fait de parler en dormant, tout comme d'ailleurs les phénomènes de somnambulisme, sont considérés comme des troubles du sommeil, toujours en lien avec le sommeil profond. Ces phénomènes ne se produisent jamais durant la phase de sommeil paradoxal, tout simplement parce que cette phase est marquée par une paralysie des muscles moteurs, comme nous l'avons évoqué précédemment. Paralysie que l'on ne retrouve pas durant la phase de sommeil profond, d'où les phénomènes de somniloquie et de somnambulisme. À partir de ces informations liminaires, nous pouvons déjà définir le rêve comme le récit d'une expérience durant le sommeil dont on est capable de se souvenir au réveil. Et c'est à partir de ce matériau onirique que se base le travail d'analyse de rêve et de psychothérapie. Ce savoir dans le domaine de la neurobiologie est très important pour comprendre ce sur quoi nous travaillons. Mais dans l'état actuel des connaissances, les neurosciences sont dans l'incapacité d'expliquer quel lien existe entre le fait de rêver et les contenus de nos rêves. Cela reste un mystère.
Musique.
L'approche psychologique, et plus précisément le point de vue analytique sur le rêve, offre à l'heure actuelle les réponses les plus pertinentes quant à la question du contenu des rêves. Juste une petite aparté en ce début de saison pour expliquer ce que j'entends par analytique, terme que j'utilise souvent et qui revient dans toutes les émissions. Analytique s'entend ici en tant qu'approche, théorique ou clinique, dont l'objet d'étude est l'inconscient. Il existe bien entendu plusieurs points de vue théoriques et cliniques ayant pour objet d'étude l'inconscient, mais tous ces courants de pensée sont regroupés sous le vocable d'approche analytique. Cette précision est importante car elle permet une distinction claire entre les approches cognitives et comportementales dominantes actuellement. Donc, lorsqu'en préambule, je me présente en tant que psychothérapeute d'orientation analytique spécialisé dans l'analyse des rêves, c'est une manière un peu technique pour dire quelque chose de très simple. Je travaille sur ce qui se joue au niveau inconscient chez les patients ou les patientes que je reçois en consultation, et leurs rêves sont l'outil de prédilection pour y parvenir. Alors, le premier à avoir développé une vision analytique des rêves est bien entendu Sigmund Freud, médecin neurologue connu pour être le fondateur de la psychanalyse. Freud avait d'ailleurs une formule célèbre pour qualifier le rêve. C'est la voie royale vers l'inconscient. Voie, V-O-I-E, pour signifier le chemin direct vers cette zone inconnue de nous-mêmes. Pour paraphraser Freud, j'ai pris l'habitude de définir simplement le rêve comme la voie royale de l'inconscient, mais cette fois-ci voie, V-O-I-X. Car le rêve est le message de l'inconscient qui s'adresse au conscient, pour le dire simplement. Et c'est cette idée force qui est au cœur de nos considérations sur le rêve. Le rêve, c'est le message de l'inconscient qui s'adresse au conscient. En réalité, l'inconscient passe son temps à interpeller le conscient. Freud l'avait évidemment remarqué en parlant des formations de l'inconscient telles que les lapsus, les actes manqués, les traits d'esprit, les symptômes physiques et, en premier lieu, les rêves. Pour ce qui est des lapsus et des actes manqués, on en produit tous de manière plus ou moins importante, avec des conséquences plus ou moins heureuses. Les symptômes sont quant à eux en général plus rares, mais toujours douloureux, avec plus ou moins d'intensité. Quant aux rêves, on en produit massivement, tous les jours, ou plutôt toutes les nuits, et bien que certains rêves soient très durs, ils sont en général plus agréables que les lapsus, les actes manqués ou les symptômes. Pourquoi l'inconscient tente ainsi d'interpeller le conscient ? C'est que l'inconscient est le réceptacle de notre vie psychique. Bien que Carl Gustav Jung qualifiait l'inconscient, tel que défini par Freud, de « poubelle du moi », il n'en est pas moins le réceptacle de notre histoire affective, émotionnelle et pulsionnelle qui, au gré de ce que l'on vit au quotidien, continue de s'exprimer ou émerge à nouveau selon les circonstances. Pour ce qui est des divergences entre Freud et Jung sur leur conception analytique concernant les rêves et leur interprétation, nous avons déjà consacré plusieurs émissions sur ce thème lors des précédentes saisons, mais il y a fort à parier que nous soyons amenés à en débattre à nouveau cette saison encore. Au final, peu importe quelle est votre obédience dans ce domaine, car dans tous les cas, c'est bien cette vie psychique inconsciente qui structure nos choix de vie. Que ce soit des grands choix, comme dans la vie amoureuse ou professionnelle, ou des choix du quotidien anodins, comme choisir ce que l'on va manger au restaurant par exemple. Comprendre ce qui se joue au niveau inconscient, c'est comprendre ce qui nous anime en permanence. Le rêve est de toute évidence la méthode la plus douce pour accéder aux contenus inconscients et ainsi amorcer et entretenir la dialectique entre l'inconscient et le conscient. Comment y parvenir ? La première étape, la plus importante, consiste à se souvenir de ses rêves. Eh oui, évidence qu'il faut quand même rappeler, point de dialogue sans parole. Se souvenir de ses rêves, c'est déjà dire à l'inconscient « je t'ai entendu ». L'étape suivante est de noter ses rêves pour signifier à l'inconscient « je t'ai entendu et j'en prends bonne note ». L'étape finale, qui vient boucler ce cercle dialectique vertueux, consiste à analyser et interpréter les rêves. Ainsi, on apporte une réponse raisonnée au sujet soulevé par l'inconscient. C'est pourquoi le rêve est sans doute la méthode la plus douce pour dialoguer avec l'inconscient. Mais ce message, provenant de l'inconscient sous forme de rêve, est rarement saisissable d'emblée. Il faut reconnaître qu'au premier abord, les rêves ont des scénarios souvent incohérents, voire carrément loufoques. Même dans le cas de rêves qui mettent en scène notre vie quotidienne, il y a toujours un élément qui vient rendre ce récit irréel. On comprend alors bien, à ce moment-là, que le rêve n'est pas le reflet exact de la réalité quotidienne. Mais est-ce que cela signifie pour autant qu'il y a un message caché à travers chaque rêve? C'est à ce moment-là qu'il faut introduire les notions de contenu manifeste et de contenu latent du rêve. Le contenu manifeste d'un rêve est l'ensemble des images, des idées, des sentiments qui forment le scénario du rêve tel que l'on peut le retranscrire à l'état de veille. Si le contenu manifeste reste important, car c'est sur son scénario que tout repose, c'est quand même le contenu latent du rêve qui nous intéresse. Mais ce contenu latent est beaucoup plus difficile à appréhender. Le lien entre le contenu manifeste et le contenu latent d'un rêve est à peu près le même que celui entre la partie émergée et la partie immergée d'un iceberg. La partie émergée, celle qui est manifeste à nos yeux, peut être facilement décrite et représentée. Par contre, la partie immergée, latente, on sait qu'elle existe et qu'elle est bien plus vaste que la partie visible, mais il nous est difficile d'y avoir accès et de la décrire. Difficile, mais pas impossible. Alors comment faire pour accéder au contenu latent d'un rêve? La distinction entre analyser et interpréter un rêve est ici fondamentale. Si dans le langage courant la différence entre interpréter et analyser n'est pas évidente, les deux termes étant le plus souvent utilisés comme des synonymes, leur distinction est au cœur de mon approche. Interpréter, c'est donner du sens à quelque chose. Et ce travail d'interprétation revient au sujet en analyse. Il ne peut en être autrement. En effet, qui d'autre que vous peut donner du sens à qui vous êtes et à ce que vous faites? Ce n'est pas simple, c'est même plutôt compliqué. Et pour nous aider dans cette quête de sens, il y a l'analyste. Maintenant, intéressons-nous au terme analyser qui signifie tout simplement décomposer pour comprendre. C'est là tout le travail d'un analyste. C'est-à-dire, lorsque le sens n'émerge pas de manière évidente pour le patient ou la patiente, le rôle de l'analyste n'est pas de donner du sens pour combler ce vide, mais au contraire d'aider la personne à y mettre son sens. Dans mon positionnement en tant que psychothérapeute, il existe une distinction fondamentale entre interpréter et analyser un rêve. Je conçois mon rôle comme une aide pour permettre aux personnes en analyse de découvrir et comprendre par elles-mêmes qui elles sont. Mais à aucun moment, je ne prendrai le rôle de dire à ces mêmes personnes qui elles sont et encore moins ce qu'elles doivent faire ou ce qu'elles doivent être. Voilà pourquoi je me présente comme analyste de rêve et non pas comme interprète. Et pour conclure cette première émission de la saison, permettez-moi de vous rappeler les trois grands principes de base, fort simples, qui président à l'analyse des rêves telle que je la conçois. Premièrement, dans les rêves, tout est soi-même. C'est un point qui fait l'unanimité chez toutes celles et tous ceux qui se sont intéressés aux rêves. Par exemple, rêver d'un proche, ce n'est pas rêver de ce proche en question dans la réalité, mais plutôt rêver de tout ce que représente, de tout ce à quoi renvoie ce proche pour nous, dans l'inconscient. Et il en va de même pour toutes les représentations dans nos rêves, que ce soit nos parents, nos enfants, nos amis, nos ennemis, les animaux, les objets, les paysages et bien d'autres. Deuxièmement, les rêves forment une suite logique et cohérente. Les rêves, pris les uns à la suite des autres, au cours d'une même séance, d'une séance à l'autre, ou tout au long de notre vie, forment une seule et même histoire. Quand bien même les rêves n'ont aucun lien scénaristique entre eux, il y a toujours un fil conducteur qui les relie. Et c'est tout l'art de l'analyste de repérer et de suivre ce fil d'Ariane des rêves. Et c'est très important pour la dynamique de l'analyse. Troisièmement, il existe plusieurs interprétations possibles d'un même rêve. L'idée la plus répandue, véhiculée par le mouvement psychanalytique, affirme qu'il n'y aurait au final qu'une seule et unique interprétation à un rêve, l'interprétation sexuelle, telle que l'a définie Freud. Je ne m'inscris pas dans cette vision psychanalytique restrictive. Je ne prétends pas pour autant que l'interprétation psychanalytique des rêves soit erronée, mais c'est sa vision unidimensionnelle qui me semble être un non-sens. Gardons à l'esprit que si l'interprétation est le fait du rêveur ou de la rêveuse, il n'appartient donc pas à l'analyste de limiter la capacité interprétative du sujet. Il est même plutôt bon, d'un point de vue psychothérapeutique, de l'encourager à développer plusieurs interprétations d'un même rêve. En tout cas, c'est ainsi que je procède. Voilà pour cette première émission de la saison qui aura permis de redéfinir les grands principes de l'analyse des rêves. Avant de nous quitter, je précise pour celles et ceux qui sont intéressés que je donnerai deux conférences gratuites et ouvertes à toutes et tous ce mois-ci, le mardi 18 septembre à 19h au Café Olive à Nîmes et le vendredi 28 septembre à 18h au Gazette Café à Montpellier. En ce qui concerne la radio, si vous avez des questions concernant les rêves ou si vous souhaitez participer à l'émission, soit en venant raconter un rêve, soit en participant à une table ronde, eh bien n'hésitez pas à nous contacter au standard de la radio au 04 67 03 28 39 ou via l'adresse mail analysederêves@radiofmplus.org. Dans tous les cas, vous pouvez toujours me contacter directement via mon site internet www.analysederêves.com. Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission le vendredi à 16h sur 91 FM à Montpellier ou en podcast sur radiofmplus.org à la rubrique La Voix des Songes. On se retrouve dans deux semaines et d'ici là, faites de beaux rêves.